Voilà, chers amis, donc au Forum Saint-Michel, ce semestre, je vais vous présenter 12 philosophes qui sont croyants ou non, mais qui sont quand même des gens qui réfléchissent et qui ont rencontré le Christ d'une manière ou d'une autre et qui ont une vision du Christ. Alors, je ne ferai pas beaucoup d'introductions. Nous verrons plus tard si on tire des conclusions, etc. Mais je vais démarrer tout de suite avec le premier portrait philosophique de Blaise Pascal. Alors, en exergue de cette leçon, je vous lis ce qu'en dit Chateaubriand dans Le génie du christianisme. Il y avait un homme qui, à 12 ans, avec des barres et des ronds, avait créé les mathématiques. Qui, à 16 ans, avait fait le plus savant traité des coniques qu'on eût vu depuis l'Antiquité. Qui, à 19, réduisit en machine une science qui existe tout entière dans l'entendement. Il a fait la première machine à calculer. Ça ne donne pas ?
Eh bien, je crois que c'est toi qui as un problème, parce que ici, ça marche.
Donc, je continue. Qui, à 19 ans, et tant, si c'est, ça ne marche pas, ben, tant pis, on recommencera, hein, tout seul. Mais je crois que ça marche. Qui, à 19 ans, réduisit en machine une science qui existe tout entière dans l'entendement. Il a donc fait la première machine à calculer, une machine mécanique, hein, pour aider son père à faire le calcul des impôts, les calculs fiscaux. Et puis, il en a fait faire une dizaine d'exemplaires à Rouen par un artisan, mais ça a pris 2 ans parce que c'était compliqué, qui, à 23 ans, démontra les phénomènes de la pesanteur de l'air et détruisit une des plus grandes erreurs de l'ancienne physique. Je passe un petit peu. Enfin, qui, dans le court intervalle de ses maux, parce qu'il avait une faible santé, résolut par abstraction de tête, donc, un des plus hauts problèmes de géométrie, et jeta sur le papier des pensées qui tiennent autant du Dieu que de l'homme. Cet effrayant génie se nommait Blaise Pascal. Voilà comment Chateaubriand parle de Blaise Pascal dans Le génie du christianisme. Alors, je vais vous présenter d'abord le portrait de Pascal, si on veut, parce que pour avoir le portrait philosophique du Christ par Pascal, il est important de connaître Pascal lui-même. Sa vie est partagée entre la science et la religion. Pascal perdit sa mère à l'âge de 3 ans. Il grandit en compagnie de ses deux sœurs, Gilberte et Jacqueline, et fut éduqué à la maison par son père, Étienne Pascal, qui comprit vite le génie mathématique de son fils. Avec son fils, il s'intéressait aux salons scientifiques de son temps. Il y avait comme ça des salons où l'on parlait de littérature, de poésie et aussi de science, notamment, hein, qui était animé par l'abbé Marin Mersenne, lui-même un grand scientifique, et qui avait découvert qu'au niveau méthodologique, on doit faire de la science de manière collective, pas de manière individuelle. Pascal lui-même, comme sa mère, mourra jeune, à peine 39 ans. D'ailleurs, je dirais que c'est une des caractéristiques des 12 personnages qu'on va voir. Beaucoup sont morts très jeunes. Le plus âgé, c'est Blondel. La plus jeune, c'est Simone Veil, 33 ans. Sa sœur Jacqueline entre à Port-Royal comme moniale. Alors, toute la question de Port-Royal est très importante à cette époque. Donc, c'est une abbaye cistercienne qui a pris plus ou moins fait et cause pour Jansénus, à cause de certains de ses directeurs spirituels. Sa sœur donc devient moniale. Sa sœur Gilberte est mariée et mère de la petite Marguerite Perrier, qui, en 1656, est guérie miraculeusement par la Sainte Épine, miracle lié à la passion du Christ qui fascina constamment Pascal. Ce miracle fit une forte impression donc sur Pascal. Science. D'après le livre de Braunschweig, ici, donc Descartes et Pascal, lecteur de Montaigne, eh bien, ces deux philosophes ont puisé beaucoup chez Montaigne. Montaigne, 1533-1592, donc il précède la naissance de Descartes en 1596. Mais Blaise Pascal va beaucoup lire Montaigne. Et c'est presque d'ailleurs le seul livre de philosophie qu'il va lire d'un bout à l'autre, parce que, comme tel, c'est d'abord un savant et un scientifique. Donc, Pascal a été éduqué scientifiquement, dans la mentalité cartésienne de l'époque. Il reçoit d'ailleurs la visite de Descartes. Descartes a 53 ans et il se décide à aller visiter ce petit génie mathématique en 1647. Pascal a 24 ans, Descartes 53, et immédiatement ils ne sont pas d'accord sur la question du vide. C'était la question de l'époque, hein. Est-ce que le vide existe, etc. Et donc c'est toutes les questions de pesanteur et de thermomètre, etc., de dilatation qui est ici. Mais surtout, ils ne sont pas d'accord sur la question du vide, mais surtout sur la méthode scientifique. Deux méthodes scientifiques très différentes. Descartes déductif, raisonneur, et Pascal au contraire intuitif, expérimentateur. Il invente des expériences, et il va les faire d'ailleurs avec son beau-frère au Puy du Dôme, mais je ne sais pas tout quoi. Un homme inductif, intuitif, expérimentateur, sans doute beaucoup plus génial que Descartes, qui lui a une vraie méthode, et qu'il avance, et il veut qu'on obéisse d'abord à sa méthode. Deux façons d'être chrétien aussi, nous dit Emilio Brito. Alors c'est un livre dont je vais m'inspirer pas mal aussi. Il y a deux volumes comme ceci, hein, et ça s'intitule « Philosophie moderne et christianisme ». Et il passe en revue à peu près 90 auteurs, hein, 90 philosophes, et le premier c'est Pascal. Et il dit un petit peu comment il se situe vis-à-vis de la religion en général et vis-à-vis du Christ en particulier. Deux manières d'être chrétien, parce que Descartes était chrétien à sa manière, plus rationaliste bien sûr, et Pascal, comme vous allez voir, passionné, hein, passionné, intuitif. Le couple, c'est Brito qui écrit, le couple Descartes-Pascal est une des antithèses qui définit le génie français. Voilà. Brito est cubain, hein, mais bien sûr il est belge maintenant, mais voilà ce qu'il dit. Descartes et Pascal, ce sont deux esprits antithétiques, mais chacun est vraiment un génie français. La religion. L'abbaye cistercienne féminine de Port-Royal des Champs fut fondée en 1204 au sud-ouest de Paris et elle fut restaurée par la famille Arnaud. La famille Arnaud, c'est une grande famille, trois générations de cette famille sont des gens très religieux, très engagés dans le droit, dans la politique, etc., avec à sa tête le patriarche Antoine Arnaud, père de 20 enfants. Donc toute une série, hein, prêtres, religieuses, etc. Et puis d'autres ont eux-mêmes beaucoup d'enfants qui deviennent moniales, etc. Et donc toutes les prieurs, toutes les abbesses de Port-Royal pendant un certain temps sont toutes des Arnaud. Cousines, sœurs, tantes, etc. Voilà, c'est un avocat à la Sorbonne et il s'oppose aux jésuites déjà en 1594. Et donc c'est une famille qui restaure, hein, Port-Royal, mais à Paris même, non plus en périphérie. Ses sœurs ont eu successivement pour directeur spirituel, figurez-vous d'abord, François de Sales. François de Sales, mais qui est mort en 1622, ça veut dire un an avant la naissance de Pascal. François de Sales avait évidemment un grand feeling, mais le suivant c'était Saint-Cyran. À partir de 1635, un ami intime de Jansénius, et c'est à partir de ce moment-là que voilà, va entrer dans à Port-Royal une spiritualité très austère de type janséniste. Le père de Pascal, Étienne, donc se lie avec ce Saint-Cyran, qui est le directeur spirituel à Port-Royal, à l'occasion d'un accident qui lui survint, et donc c'est comme ça qu'un peu par hasard, Pascal est lui-même mis en relation avec toute cette spiritualité. Lié un peu à cette abbaye, il y a aussi une série de messieurs qu'on appelle les messieurs de Port-Royal ou les solitaires de Port-Royal, qui sont des intellectuels, médecins, juristes, éducateurs, théologiens, qui quittent la vie mondaine, qui renoncent à des situations parfois brillantes pour mener une vie toute donnée à Dieu, dans un esprit rigoriste. Alors Pascal, Blaise Pascal n'a jamais été, à strictement parler, un de ces messieurs de Port-Royal, mais quand même, il vivait à peu près comme eux. Les trois conversions de Pascal. Guardini distingue trois conversions chez Pascal. Elles sont indiquées dans la feuille de route que certains ont, dans le petit encadré. Première conversion, en 1646, qui le tourne vers le religieux en général, occasionné par les relations de son père avec Saint-Cyran et la décision radicale de sa sœur de devenir moniale. La deuxième conversion de Pascal correspond à cette fameuse expérience qui est rapportée dans le mémorial de 1654. Il a 31 ans et c'est le texte que nous allons lire pour terminer, le mémorial. C'est la conversion au Jésus de la croix et de l'histoire, plus au Dieu en général, mais au Jésus, au Dieu de la révélation, de la Bible. Après cette conversion, Pascal veut se soumettre avec une soumission totale et douce à une autorité, à un maître spirituel. Malheureusement, il s'adressa à Port-Royal, qui n'a personne pour le guider vraiment. Guardini écrit « Cette âme n'était pas entre de bonnes mains. Ah, si François de Sales avait pu le guider !» On imagine François de Sales avec Pascal, mais voilà, il n'était pas contemporain. Et la troisième conversion suit l'épisode de l'écrit sur la signature en 1662, ça veut dire quelques mois avant la mort de Pascal. De quoi s'agit-il? Très rapidement, eh bien donc Jansénus a été condamné en 1653, c'est indiqué sur votre feuille. Il a été condamné et Port-Royal est mécontent de cette condamnation. On la discute, les Arnaud argumentent, est-ce que le pape n'a pas tort, etc. Et donc, dans cette controverse, eh bien, on demande aux gens qui se rallient à Jansénus, eh bien, voilà, vous êtes plus ou moins exclus, mis au banc, et les autres qui veulent revenir à l'Église catholique, eh bien, doivent signer un formulaire. Voilà. De repentance, etc. Et bon, certains vont le faire, et Pascal hésite. Est-ce qu'il va signer le formulaire ou pas? L'écrit sur la signature. 1600, donc, voilà. 1662. C'est alors que Pascal se détache du démon du combat et de la polémique. Parce qu'en effet, depuis sa jeunesse, il a été dévoré par le démon de la polémique. Donc, comme vous savez, c'est un homme très intelligent et qui tout de suite voit la faille, l'erreur chez les scientifiques, chez les religieux, et qui aime combattre, qui aime avoir raison. Il veut toujours donc s'imposer. Et parfois même, voilà, il semble que quelqu'un qui vient à Louis, à la porterie. Oui, eh bien, on va venir vous ouvrir. Alors, là, enfin. Voilà, excusez-moi. Donc, depuis sa jeunesse, eh bien, il aime travailler, même en science, dans un climat de rivalité. Par exemple, il a découvert quelque chose, eh bien, il ne publie pas sa découverte, il la met au concours, il pose la question. Alors, il y a de pauvres mathématiciens très brillants de Sorbonne, des jésuites aussi, dans les collèges, tout ça, qui commencent à essayer de résoudre l'affaire, et puis, lui a la solution, et les autres, eh bien, ils se plantent. C'est arrivé plusieurs fois. Voilà, ça, c'est un peu le style de Pascal, il faut le savoir. Les provinciales sont évidemment un grand exemple de son style polémiste. Les provinciales, qui sont écrites en, comme c'était sur la feuille là, en 56-57, sont un chef-d'œuvre de polémique. Aussi bien dans la teneur, 18 lettres qui sont publiées de manière anonyme, comme dans un journal, dans un feuilleton, et voilà, ils discutent de la question du jansénisme, de la question de la condamnation de Jansénus par Rome. Mais, il faut quand même bien le dire, Pascal n'a aucune formation philosophique. Il n'a aucune formation théologique. Son père a négligé ce type de formation. Alors, il se met à lire les essais de Montaigne, mais c'est un certain type de philosophie, très littéraire, très bavard, très commentaire de l'Antiquité, etc. Voilà, pas du tout systématique. Eh bien, il se lance dans la polémique et il veut avoir raison. Il écrit 18 lettres De quoi traitent ces 18 lettres anonymes qui paraissent donc sous forme de feuilleton dans les journaux. Alors les gens sont là qui attendent hein, que Louis de Montalt, c'est son pseudonyme, Louis de Montalt, eh bien publie la lettre suivante, lettre à un provincial et puis lettre au révérend père jésuite hein, sur la grâce, surtout la grâce suffisante, sur la morale laxiste des jésuites. Hein. Et voilà, dans la 17e lettre, il dit « Je ne suis pas de Port-Royal, je suis seul. » C'est pas tout à fait vrai, et en même temps, ça commence à devenir vrai. Hein. Ça commence à devenir vrai. Il semble, d'après les spécialistes, que Chevalier, par exemple, dit « Les jésuites l'ont insensiblement converti. » Parce qu'il raconte ce qu'ils pensent de la grâce et tout, ben, les jésuites, ben, eux, répondent à leur manière, par leur prédication, etc. Le polémiste donc, s'arrête à la 18e lettre et l'anonymat n'a pas été percé. Il n'y avait personne ?
C'est quelqu'un qui voulait aller à la messe.
Ah. Alors, bon, mais cette fois-ci, je vais... Merci, Nicole. Voilà, l'anonymat n'a pas été percé. À la 18e lettre, il s'arrête. Selon Chevalier et Guardini, cet épisode des provinciales a constitué une régression sur la voie de la sainteté où cheminait Pascal. Donc sa grande conversion hein, en 1654, avec le mémorial qu'on va lire, il était vraiment parti sur un beau chemin, mais avec les provinciales, bon, il revient un peu en arrière, mais malgré tout, au fur et à mesure qu'il écrit ses provinciales, il revient, je crois, à de meilleures dispositions par rapport à la théologie. Les cinq propositions. Que sont les cinq propositions ? Eh bien, ce sont cinq propositions synthétiques de Jansénus qui sont condamnées. Alors, je ne vais pas entrer dans ces cinq propositions parce que c'est assez compliqué, assez technique. Mais la cinquième est celle-ci, hein, c'est que finalement, eh bien, le Christ n'est pas mort pour tous les hommes. Et la cinquième proposition est un peu la suite logique des quatre précédentes, hein, la question de la volonté de Dieu, de la volonté de l'homme, de la puissance de la grâce, etc., de la liberté de l'homme par rapport à la grâce. Toujours est-il que la cinquième proposition, c'est, eh bien, il est faux de dire hein, que le Christ est mort absolument pour tous les hommes. Sous-entendu, il est mort pour ceux qui sont sauvés. Et ceux qui sont perdus, le Christ n'est pas mort pour eux. C'est un peu la prédestination, ça sent un petit peu la prédestination, hein? Mais voilà, donc ça c'était un peu les erreurs du jansénisme. Je n'insiste donc pas sur ces cinq propositions et je fais une petite présentation des pensées, fragment d'une apologétique. Donc à un certain moment, il a terminé ses provinciales, finalement il se dit cette polémique... C'est peut-être pas vraiment ce qu'il fallait faire. Je vais me mettre à écrire une vraie apologétique de la religion chrétienne. Je vais rassembler mes pensées et je vais écrire un livre convaincant, éloquent, hein, qui parle au cœur. Pas un traité de dogmatique, etc. Ça, c'est pas du tout son style. Hein, surtout après sa conversion passionnante et passionnée. Et il se met à donc rassembler des pensées. Les pensées de Pascal, comme vous le savez, bon, ben, ça a duré... de 58 à 62 jusqu'à sa mort, c'est un fourbi incroyable. Donc c'est très difficile à lire. C'est des pensées dans tous les sens, il y a des banalités complètes, et puis tout à coup il y a des éclairs fulgurants, il y a des choses qui sont très développées, des choses qui sont très courtes. En tout cas, dans ces pensées, il critique. Donc je pose la question, Pascal est-il un philosophe ? On a tendance à dire tous oui, et moi aussi, puisque le premier portrait philosophique, c'est Pascal. Eh bien, c'est quand même un paradoxe hein, de considérer comme philosophe quelqu'un qui se moque de la philosophie hein, et qui dit qu'aucun philosophe n'a rien compris. Et il dit même, toute la philosophie ne vaut pas une heure de peine. Donc, si vous avez envie de faire de la philosophie, après une heure, vous pouvez vous arrêter, c'est inutile. Mais lui a quand même lu Montaigne. Hein. Il a quand même lu Montaigne, qui est quand même un peu épais. Mais en fait, tout son savoir philosophique vient de Montaigne. Il n'y a pas grand-chose de plus. Il y a Épictète, un stoïcien, il y a Montaigne qui finalement est ramené à un sceptique qui s'appelle Pyrrhon, et voilà. Alors, il y a deux sectes, en fait, en philosophie, selon Pascal. C'est un peu simpliste, hein, mais il y a deux sectes. La sagesse stoïcienne d'Épictète, qui est orgueilleuse. Non, c'est pas bon. Et puis, finalement, il y a le scepticisme de Montaigne lui-même, qui est lâche et paresseux. Voilà. Donc, lui, il s'accommode de tout, il rigole de tout, voilà, mais il ne décide rien. Et il s'en prend aussi à la philosophie de Descartes, mais il cite très peu Descartes. Il paraît, je crois que j'ai lu quelque part, que pas une seule fois le mot de Descartes n'arrive dans les pensées, mais il y a des phrases de Descartes qui arrivent dans les pensées. Et il y a des polémiques avec Descartes, très claires. Hein? Mais quand même, là, il a quand même affaire à un homme sérieux, qui est en vogue à cette époque-là. Et il s'en prend à la philosophie de Descartes, mais de manière beaucoup plus subtile, de manière beaucoup moins frontale. Et donc, dans son apologétique, une des premières choses qu'il fait, c'est de discréditer la philosophie. Il est urgent de discréditer la philosophie. Ce qui intéresse Pascal dans la philosophie, ce sont ses échecs. Là où la philosophie n'a pas réussi, elle n'a pas atteint son but. Comme je vous ai dit, hein, toute la philosophie ne vaut pas une heure de peine. Il ne s'agit donc pas de réfuter la philosophie, mais de la mépriser. Voilà. Pascal trouve ce que signifie concrètement le mot raison pour lui, non pas dans le livre des philosophes, mais uniquement dans l'expérience scientifique. La raison, c'est le géomètre, le physicien. Ce n'est pas le philosophe. Alors le philosophe, qu'est-ce qu'il fait ? Ben, il bavarde. C'est pas très bien ce qu'il fait, mais en tout cas, la raison, c'est la science. Alors, vous savez que pour Descartes, il y a la substance étendue et puis la substance pensante, avec un certain dualisme. Alors, Pascal prend plus ou moins ça, mais il n'oppose pas les choses aussi fort. Il y a les corps, il y a la raison, et puis finalement, il y a le troisième ordre de la charité. Hein? Voilà. Les corps qu'étudient les scientifiques avec beaucoup de curiosité, ce qui n'est pas très bien, c'est une passion, la curiosité. Hein. Je vous citerai d'ailleurs ce qu'il dit sur les sciences. Donc les corps qui sont étudiés par les scientifiques, bon, la raison, les corps c'est plutôt la vie habituelle, les passions, etc. Puis la raison qui étudie les corps, et puis l'ordre de la charité qui est à une distance infinie du deuxième, comme d'ailleurs le deuxième est à une distance infinie du premier. Donc lui, il ne fait pas des séparations, mais il met des distances, et même des distances infinies. C'est pas tout à fait la même chose que Descartes, qui évidemment est plus cartésien, et qui dit, bon, ben, si l'un n'est pas l'autre, il faut les séparer, il y a une rupture. Alors, par exemple, c'est tout à fait curieux, mais nous connaissons la vérité, non seulement par la raison, mais encore par le cœur. Les premiers principes, nous les connaissons par le cœur. Alors, je cite Pascal. Le cœur sent que l'espace a trois dimensions et que les nombres sont infinis. C'est le cœur qui sait ça. Que les nombres sont infinis et que l'espace a trois dimensions. Vous voyez que sous le mot cœur, il met quelque chose d'un peu bizarre. En fait, il met l'intuition. Il met en mélangeant un peu sensibilité et intuition intellectuelle, etc. Ça, c'est le cœur, ce qui est immédiat. Voilà, ce qui est immédiat. Puis la raison, qui est différente. Alors, qu'est-ce qu'elle sait, la raison ? Par exemple, qu'il n'y a pas deux nombres carrés dont l'un est le double de l'autre. Ah ben oui, ça, évidemment, ça, il faut faire une petite démonstration. Hein. Il faut faire une petite démonstration. Eh bien, ça, la raison est capable de savoir ça. Mais ce n'est pas la raison qui sait qu'il y a trois dimensions. C'est le cœur. Donc, vous voyez qu'il utilise les termes d'une manière pas vraiment très philosophique. Alors, vous savez aussi qu'à l'époque, on avait découvert la circulation du sang, le médecin anglais Harvey, et on commençait un petit peu à voir comment fonctionnaient les organes, et on avait dit, tout ça, c'est une machine. Le corps humain est une machine qui travaille un peu toute seule. Et puis, bon, il y a une pensée là au-dessus qui est plus ou moins reliée à cette machine, à ce corps-machine. Et Descartes pensait vraiment que le corps était une machine, et Pascal aussi, en fait. Et si on veut, c'est une vieille problématique qu'on retrouve aujourd'hui avec les neurosciences et avec toute cette affaire-là, hein, c'est de se demander dans quelle mesure la pensée est indépendante du corps et dans quelle mesure la pensée domine le corps, etc. Voilà, alors il a décidé que cette pensée serait un peu comme les essais de Montaigne, parce que ce qu'il trouve bien chez Montaigne, c'est pas son scepticisme évidemment, horreur, mais c'est le fait qu'il ne soit pas systématique. Il n'est pas systématique. Il jette sur le papier toutes sortes de pensées, mais il veut être éloquent. Il veut convaincre le cœur. Voilà donc ce qu'il va faire. Alors il dit lui-même dans une pensée, 566, mais enfin ça dépend un peu des numérotations, parce que c'est compliqué les pensées, comme je vous ai dit, hein, il y avait des liasses, puis on a recopié, on n'a pas recopié tout, et puis voilà. Voilà ce qu'il dit lui-même. J'ai passé longtemps dans l'étude des sciences abstraites. Et le peu de communication qu'on en peut avoir m'en avait dégoûté. Quand j'ai commencé l'étude de l'homme, il va un peu plus loin, maintenant il va étudier l'homme, j'ai vu que ces sciences abstraites ne sont pas propres à l'homme, ne sont pas bonnes pour l'homme, hein, et que je m'égarais plus de ma condition en y pénétrant que les autres en les ignorant. Ah, il dit, hein, lui, un grand scientifique, qu'en pénétrant dans les sciences, il s'égare, et que ceux qui n'y vont pas, eh bien, s'égarent moins que lui. Vous voyez le mépris qu'il a aussi pour la science à un moment donné. Mais j'ai pardonné aux autres d'en savoir si peu sur ces sciences, mais comme elles ne sont pas très importantes, selon lui, hein, qui est évidemment le plus fort là-dedans. Mais j'ai cru trouver au moins bien des compagnons dans l'étude de l'homme. Et que c'est le vrai étude qui lui est propre, l'étude de l'homme. Et j'ai été trompé. Il y en a encore moins qui l'étudient que la géométrie. Donc les hommes sont encore plus nuls dans l'étude de l'homme que dans l'étude de la géométrie, qui est nulle. Ce n'est que manque de savoir étudier cela, qu'on cherche le reste, qu'on se divertit. Mais n'est-ce pas que ce n'est pas encore là la science que l'homme doit avoir, qu'il lui est meilleur de s'ignorer pour être heureux. Et voilà, il va passer au troisième ordre. Donc critique des philosophes, critique de la philosophie, critique du Dieu des philosophes. Alors là, c'est intéressant. Selon Gouillet, un grand connaisseur, Pascal fait clairement entendre que le Dieu des philosophes est un faux Dieu. Est un faux Dieu. On pense souvent que la notion de faux Dieu se réfère au polythéisme. Les faux Dieux, c'est Jupiter, Vénus, tout ça, c'est des faux Dieux. Non. Le Dieu du monothéisme des philosophes, le Dieu des déistes, c'est un faux dieu, c'est une idole, même s'il est seul, même s'il a créé le monde, même s'il est, etc. Si ce n'est que le dieu des philosophes, c'est un faux dieu. Pour comprendre la pensée de Pascal, insiste Bouillet, il faut faire intervenir la notion de faux dieu au niveau du monothéisme. Il ne suffit pas d'être monothéiste, hein, et d'avoir évacué le polythéisme pour en être débarrassé de ces faux dieux. Non, il y a encore le dernier faux dieu, qui est le dieu des philosophes. Car la connaissance de Dieu sans Jésus-Christ est inutile. La connaissance de Dieu sans Jésus-Christ est inutile. Donc vous voyez là son portrait, hein, du Christ qui commence à s'esquisser. En somme, il y a deux mondes. Celui au centre duquel la croix est plantée et l'autre. Et dans cet autre monde, athéisme et déisme voisinent l'un avec l'autre. L'athéisme et le déisme, bon, ils peuvent se réfuter et tout ça. Ça ne sert à rien. Ils sont dans l'autre monde, celui qui est celui des faux dieux. Qu'ils existent ou pas, c'est des faux dieux. Quand l'athée réfute les arguments du déiste, il a tort de croire qu'il atteint le dieu de la religion, qui est hors d'atteinte. Dans la perspective de Pascal, il n'y a pas de religion naturelle. Le christianisme est une religion historique, il n'y a pas de religion naturelle, de religion rationnelle, etc. Alors ça, c'est très important, c'est un débat que nous allons avoir tout au long de nos leçons. Hein. Est-ce qu'il y a une religion naturelle? Est-ce que l'homme sans Dieu, mais peut-être pas sans la grâce, hein, l'homme sans le Dieu révélé, hein, est-ce qu'il peut quand même dire quelque chose de Dieu, métaphysiquement ou Dieu sait quoi? Eh bien, avec Rousseau par exemple, nous aurons la réduction de toute la religion à la religion naturelle. Et ça deviendra avec Robespierre, le culte du grand être, etc. Mais pour Pascal, non. La religion naturelle n'est pas pas une religion, parce que l'homme est corrompu. Ça, c'est un peu la thèse de Jansénius et de Luther derrière. Voilà. Donc, attention aux philosophes, parce que leur Dieu est un faux Dieu. Il vous invite à l'idolâtrie. Cependant, et ça c'est un des paradoxes, et Pascal est un homme paradoxal, il veut aussi que sa pensée soit paradoxale, cependant on discerne chez Pascal une dépendance constante et quasi obsessionnelle envers la philosophie. Donc il faut se moquer de la philosophie, se débarrasser du Dieu des philosophes, et pourtant il parle tout le temps des philosophes. En fait, il n'est lui-même ni philosophe ni théologien, hein, on a négligé cela dans son éducation, mais voilà, par lui-même il cherche. En théologie, finalement, il défend l'augustinisme et la spiritualité de Port-Royal, mais sans beaucoup d'argumentation et sans avoir vraiment compris tous les tenants et aboutissants. Les trois ordres de Pascal, je vous en ai déjà parlé, hein. Il y a les corps avec les passions, etc. Il y a la raison avec les sciences et tout. Et il y a le cœur, mais le cœur, c'est bien sûr le domaine de la charité, mais c'est aussi le domaine finalement de l'intuition première, hein, de la rencontre immédiate avec Dieu. Voilà, je ne vais pas insister sur ces trois ordres, mais donc il y a une continuité avec Descartes et en même temps une distance, hein. Descartes fait plutôt un dualisme, tandis que Pascal met de la distance entre les trois ordres. Alors Jésus-Christ. Le Christ de Pascal est le Christ de la piété fervente. J'aime la pauvreté parce qu'il l'a aimée. C'est la seule raison. Il n'y a pas d'autre voie que lui et que de l'imiter en tout. Il est la voie. La christologie de Pascal est maximaliste. Toute la religion tient dans le Christ. Le Christ, c'est toute la religion. Connaître Jésus-Christ, c'est connaître simultanément et Dieu et soi-même. Et ce Dieu est un Dieu caché. Donc j'avance, hein, le Christ Jésus abaissé, parce que c'est un Dieu caché, j'y insisterai encore, christologie maximaliste et doloriste, la passion. Il faut replacer ce Christ dans l'orbite du Dieu caché. Alors là, c'est aussi une caractéristique de Pascal, mais qui est aussi un peu celle de Luther. On trouve ça dans la Bible aussi, hein, tu es un Dieu caché, hein. Mais Luther, Jansénius insiste là, hein, sur que Dieu se révèle sub contrario, hein, à l'inverse. La prédication est folie. Ce qu'il y a de fou dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi, 1 Corinthiens, au début. Il y a une sorte d'évidence du Christ, d'éclat propre du Christ, à l'intérieur de son humiliation. Une splendeur irrécusable, mais dans son ordre, qui est celui de la charité, de la sainteté. Et cette évidence ne se révèle qu'à la foi, évidemment, qui perce le voile où il est caché. Il y a un contraste du rayonnement secret de son être et d'un quasi incognito de son apparition. On retrouvera cela chez Kierkegaard, qui insiste beaucoup sur le paradoxe et sur l'incognito du Christ, jusqu'à des thèses vraiment extrêmes, hein, se dire, et si le Christ, hein, on l'avait tous oublié? Est-ce qu'il aurait sauvé le monde ou pas? Bon, voilà la question qui va se poser. Donc, christologie maximaliste, doloriste, vous vous souvenez de cette méditation en 45 points sur l'agonie du Christ? 45 points, ben, si Saint Ignace en donne 2 ou 3, ben, lui 45 points sur l'agonie du Christ. Et au 8e point, il y a cette phrase demeurée célèbre, « Jésus sera en agonie jusqu'à la fin du monde. Il ne faut pas dormir pendant ce temps-là. » Voilà. Jésus, dans l'éternité, est en agonie. L'insistance de Pascal sur la rédemption est donc très vive. Jésus est le Dieu caché, fait chair, qui brille d'un éclat extraordinaire pour ceux qui sont entrés dans le troisième ordre, pas pour ceux qui se divertissent avec les sciences ou avec leurs passions, encore de manière plus médiocre. Il est à lui-même la preuve de sa divinité, car la révélation est au suprême degré paradoxale. Dieu se cache, ordinairement. il se découvre rarement. Il se présente. Pascal donc insiste sur que Dieu se cache dans sa passion, dans cette douleur. Il observe un dolorisme assez rigoureux qui présente cependant une note de douceur raffinée. Car il y a sans cesse la mémoire aimante du Christ, la dévotion cordiale qui affleure partout dans ses écrits, qui tempère l'austérité de la foi de Pascal. Pascal, à vrai dire, oublie beaucoup de mystères de la théologie et de la foi chrétienne. Par exemple, l'eschatologie, la communion des saints, le sens positif de l'histoire, l'insertion des chrétiens dans le temporel, l'œuvre commune avec la société, avec les païens. En fait, l'articulation foi-raison chez Pascal est assez exacerbée. Foi-raison sont opposées, hein, et il va un peu dans le sens du fidéisme. Alors ça, c'est aussi une grande question qu'on va se poser tout au long de ce cours. Hein. Est-ce que Dieu se découvre aussi par la raison ou seulement par la foi, hein? Est-ce qu'on doit choisir entre rationalisme, alors qui peut aller à l'extrême, hein? Ou bien qui peut être mitigé par la foi, mais la foi aussi peut aller à l'extrême, hein? Je crois, parce que c'est absurde. Hein? Voilà, donc l'articulation foi-raison va dans le sens du fidéisme, n'est pas l'expression de l'attitude chrétienne habituelle à l'égard de la nature humaine, qui est toujours considérée de manière assez pessimiste. Donc, une théologie qu'on généraliserait à partir des pensées de Pascal présenterait sans doute de sérieux inconvénients, tout en présentant aussi des merveilles. Il est malheureusement trop imbu de la doctrine de Jansénus dont était transi Port-Royal. Au fond, pour les sciences, c'est un homme de la modernité. Et pour la religion, et même pour la philosophie d'une certaine manière, c'est un homme de la tradition. Alors maintenant, je vais vous tracer le portrait de Pascal, le Christ de Pascal, en faisant un centon de ses pensées. Alors je puise ça chez Emilio Brito, qui a de très très belles pages. Mais avant cela, je vous mets en exergue une citation de Voltaire. Je vous ai mis au début une citation de Chateaubriand qui dit « Ce génie effrayant, c'est Pascal extraordinaire, Voltaire. » Voltaire, c'est tout le contraire, évidemment. Il écrit dans ses lettres philosophiques sur les pensées de M. Pascal. Il me paraît qu'en général, l'esprit dans lequel M. Pascal écrivit ses pensées était de montrer l'homme dans un jour odieux. Il s'acharne à nous peindre tous, méchants et malheureux. Il écrivit contre la nature humaine à peu près comme il écrivait contre les jésuites. Il impute à l'essence de notre nature ce qui n'appartient qu'à certains hommes. Aux jésuites aussi, bien sûr. Il dit éloquemment des injures au genre humain. J'ose prendre le parti de l'humanité contre ce misanthrope sublime. J'ose assurer que nous ne sommes ni si méchants ni si malheureux qu'il le dit. Je suis de plus très persuadé que s'il avait suivi dans le livre qu'il méditait le dessein d'écrire dans ses pensées, il aurait fait un livre plein de paralogismes éloquents, ça veut dire de faute de logique, hein, paralogismes éloquents et de fausseté admirablement déduite. Voilà, donc pour lui, il est très content de ne pas avoir les pensées de Pascal de manière achevée. Mais maintenant, moi, au contraire, je vais enfiler toute une série de pensées et je vais donc faire à partir de là le portrait du Christ de Pascal. Je vais lire cela un peu plus lentement, de manière méditative, et j'espère que nous aurons ensuite 5 minutes pour lire son mémorial. La dévotion de Pascal est christocentrique. Il n'y a pas d'autre voie que le Christ, et donc que l'imitation pour conduire à Dieu. Par l'incarnation, le Christ est le médiateur et le réparateur, un Dieu dont on s'approche sans orgueil et vers lequel on s'abaisse sans désespoir. Le Christ est l'image de l'homme qui ne peut être posé que par Dieu, que le monde ne peut pas inventer. Il faut le considérer comme venant d'une action libre et gracieuse de Dieu, que rien à partir du monde ne pouvait ni exiger, ni soupçonner, ni projeter. La contradiction qui s'ouvre en l'homme béante, grandeur et misère de l'homme, grandeur par la pensée, misère par le péché. La contradiction qui s'ouvre en l'homme se trouve en Jésus, ramené à une unité, dont le sens n'est pas la révélation de l'homme en tant que tel, mais la révélation de l'amour de Dieu pour l'homme. Il n'y a pour Pascal d'anthropologie que christologique. En Jésus-Christ, toutes les contradictions sont accordées, mais en lui seul. En Christ, la bassesse n'est pas supprimée au profit d'une grandeur inaltérable. La bassesse devient au contraire elle-même l'expression de la grandeur. Comme Dieu et comme homme, Jésus-Christ a été tout ce qu'il y a de plus grand et tout ce qu'il y a de plus chétif et abject, afin de sanctifier en soi toute chose. On retrouvera des accents comme cela chez Simone Veil. Le Christ est ce qui embrasse tout. Il est le mystère. Sa passion est la passion d'un Dieu sous une forme humaine, Dieu abandonné par Dieu à la colère de Dieu. C'est pour cela que cette agonie dure jusqu'à la fin du monde et qu'elle est l'éternelle peine de Jésus-Christ. De même, depuis le commencement du monde, Jésus-Christ subsiste. Il est l'objet de tout et le centre de tout. Qui le connaît ? Connaît la raison de toute chose. Le monde ne subsiste que par Jésus-Christ et en Jésus-Christ. La connaissance de Jésus-Christ est la clé de toute connaissance. Connaître le Christ, c'est connaître simultanément et Dieu et soi-même. Vérité sur Dieu et sur l'homme, le Christ est le véritable Dieu des hommes. En assumant la condition humaine, il a revêtu toutes les conditions. Inversement, chaque membre de son corps peut revêtir le Christ. Aussi, Pascal considère Jésus-Christ en toutes les personnes, comme un frère qu'il découvre en ses frères, comme un pauvre qu'il voit dans les pauvres, comme un souverain qu'il voit dans les princes. Alors, je fais une petite parenthèse sur la pauvreté. Donc, sa sœur Moniale, je crois, est morte l'année avant lui. Et il a sans doute hérité quelque chose. Il a donné cette maison aux pauvres. Et lui-même, lorsqu'il était en train de mourir, et il le savait, il a demandé la communion que ses amis jansénistes lui ont refusé, je ne sais pas pourquoi. Alors il a demandé à ce qu'on amène auprès de lui, dans sa chambre, un pauvre qu'il connaissait. On n'a pas voulu. Alors il a demandé à être conduit dans un hospice de pauvres pour y mourir. Tellement il voulait de manière radicale rencontrer cette pauvreté qu'il avait vue dans le Christ. Et là aussi, on lui a refusé. Donc, évidemment, c'était une demande un peu spéciale. Hein. Quelqu'un est occupé à mourir et dit « Allez, allez vite m'apporter, me conduire dans une maison de pauvres. » Mais voilà. Donc, cette admiration pour la pauvreté du Christ est très forte chez lui. L'insistance de Pascal sur la rédemption est très vive. C'est Jésus qui met fin à l'ignorance et à l'aveuglement de l'homme. Aucune métaphysique n'y atteint. L'apologétique pascalienne tout entière est centrée sur le Christ. Le christianisme prouve le Christ et le Christ prouve le christianisme, étant lui-même sa propre preuve. Les prophéties et les miracles désignent le Christ comme le Messie attendu. Alors il tient encore très fort avant l'exégèse historico-critique que le monde a été créé 4000 ans avant Jésus-Christ, etc. Et il voit les prophéties non pas comme la prophétie de tel prophète qui dit une chose précise, mais comme une attente quadrimillénaire d'un Messie par un peuple extraordinaire. Il était au courant de certaines réflexions juives. D'ailleurs, dans ses pensées, il y a plusieurs pensées qui s'appellent rabbinage. Rabbinage. Il a été chercher chez un rabbin, chez Maïmonide, je ne sais pas, dans le Talmud, dans la Kabbale, des histoires. Il a sans doute lu là, tout cela de seconde main, mais il est intéressé et il est respectueux de cette tradition. toute l'écriture, vous connaissez cela, hein, regarde le Christ. L'Ancien Testament comme son attente, le Nouveau comme son modèle. Tous deux comme leur centre. Et chacun représente un peuple, les Juifs et les Gentils. La Bible qui annonce Jésus-Christ reçoit de lui son sens, qui autrement resterait scellé. Le Christ est la clé des chiffres. Pour un mathématicien, ça veut dire quelque chose, hein. Non seulement il déchiffre, mais il apporte la vérité qu'il est. Il y a une sorte d'évidence du Christ, aucun homme n'eut jamais plus d'éclat, mais seulement pour la foi qui perce le voile. Car d'un autre point de vue, il est le serviteur sans éclat. Il a vécu dans l'obscurité. Au contraire de Mahomet, dont il parle beaucoup, il ne s'est pas mis en lumière. Il est misérable, seul. Il vit 30 ans sans paraître. En 3 ans, il passe pour un imposteur. Les prêtres et les principaux le rejettent. Ses amis les plus proches le méprisent. Enfin, il meurt, trahi par un des siens, renié par l'autre, abandonné de tous. Il ne veut pas réussir humainement, mais périr humainement. Et c'est précisément ainsi qu'il doit être pour qu'on reconnaisse en lui le Dieu caché. De l'absence d'éclat extérieur de Jésus, Pascal tire un surcroît de démonstration. Le Christ est la clé des figures et des prophéties. Il est à lui-même la preuve de la divinité. Mais le code qu'il est lui-même énigmatique et mystérieux. Il déchiffre en dissimulant. La pensée paradoxale, hein, de Pascal. Il faut faire l'expérience, pas déduire, faire l'expérience. La révélation qui a lieu dans le Christ est au suprême degré paradoxale. L'incarnation suscite le scandale, et tant mieux. Jésus-Christ en personne est l'incarnation d'un Dieu caché. Mais l'obscurité n'est pas totale. Et ça, il le dit au moins une dizaine de fois dans les pensées. Hein. Il y a assez de lumière pour voir, et assez d'obscurité pour dire qu'on ne voit pas. Dieu ne peut pas se dissimuler entièrement, car alors aucune foi ne serait possible. Mais encore moins se dévoiler entièrement. Car il n'y aurait alors aucun mérite. Dieu se cache ordinairement et se découvre rarement. Enfin, il est caché dans le plus étrange et le plus obscur secret de tous, qui sont les espèces de l'Eucharistie. Il y a là obscurité croissante, dans la manifestation croissante de l'amour suprême. Cette obscurité de Dieu permet, il est vrai, que sa révélation soit toujours plus contestée, mais aussi que la rencontre entre Dieu et l'homme s'accomplisse dans la liberté du cœur. C'est dans cette unité d'évidence et d'obscurité que Dieu se manifeste lui-même dans le Christ. L'absconduité divine est critère de vérité religieuse. Toute religion qui ne dit pas que Dieu est caché n'est pas véritable. Dieu se cache dans le Christ pour aveugler les uns et éclairer les autres. La révélation dissimule et la dissimulation révèle. On touche ici le cœur de l'apologétique pascalienne. Le Christ est venu aveugler ceux qui voyaient clair. Jean, chapitre 9. La religion chrétienne est sage et folle. Ce qui fait croire, c'est la croix. La manifestation de Jésus-Christ crucifié révèle simultanément deux réalités qui, chacune à sa manière, sont essentiellement cachées. Et je terminerai par là. Puis nous aurons la lecture du mémorial. Jésus-Christ crucifié révèle simultanément deux réalités qui, chacune à sa manière, sont essentiellement cachées. L'amour toujours plus grand du Dieu incompréhensible et le péché de l'homme qui, à la lumière de cet amour, apparaît d'autant plus grand. Le Christ illumine toute chose à partir de son obscurité. Voilà, voilà. Donc ça, c'était l'exposé. Et alors, comme rien ne vaut de lire un texte de l'auteur lui-même, chaque fois, je vous fournirai normalement un texte de deux pages, hein, ou deux textes d'une page, bon, deux petites pages que nous lirons calmement pour terminer dans les 5 ou 10 dernières minutes. Et voilà, ensuite, nous achèverons la leçon. Et ceux qui veulent rester pour un petit débat, pour un petit échange d'idées, libre à eux. Alors, bon, malheureusement, vous n'avez pas tous cela sous les yeux. Ceux qui vous l'avez tous reçu normalement par PDF. Hein. Donc, je vous demande de l'imprimer si possible, de manière à ce qu'on puisse le lire ensemble. Bon. C'est intitulé « Les fragments non enregistrés par la seconde copie ». Bon, c'est des questions philologiques. 742, donc c'est la pensée 742, le mémorial, l'an de grâce 1654. Donc c'est un mémorial qu'on a trouvé dans la doublure de son manteau. Et il y en avait même deux, hein, un parchemin et à l'intérieur le même texte sur un papier qui était cousu dans son manteau. L'an de grâce 1654, lundi 23 novembre, jour de Saint Clément, pape et martyr et autres au martyrologe. Veille de Saint Jean, de Saint Chrysogone, martyr et autres. Depuis environ 10h30 du soir, jusque environ minuit et demi. Feu! Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Il y a plusieurs citations de la Bible dans ce mémorial. Ancien et Nouveau Testament. Donc, feu, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Nom des philosophes et des savants. Certitude, sentiment, joie, paix. Dieu de Jésus-Christ. Deum meum et Deum vestrum. Ton Dieu sera mon Dieu. Oubli du monde et de tout, hormis Dieu. Il ne se trouve que par les voies enseignées dans l'Évangile. Grandeur de l'âme humaine. Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi, je t'ai connu. Joie, 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 pleure de joie. Je m'en suis séparé. De reliquerunt me fontem aquae vivae. Mon Dieu, me quitterez-vous ? Que je n'en sois pas séparé éternellement. C'est la vie éternelle qu'ils te connaissent, seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. 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 Je m'en suis séparé. Je l'ai fui. Renoncé. Crucifié. Que je n'en sois jamais séparé. Il ne se conserve que par les voies enseignées dans l'Évangile. Renonciation totale et douce. Etc. C'est lui qui écrit. Etc. Voilà. Voilà le mémorial. Donc c'est un texte très célèbre. Hein. Joie, joie, pleure de joie. Mais vous voyez plusieurs fois Dieu de Jésus-Christ, plusieurs fois l'Évangile. Plusieurs fois, je m'en suis séparé, mais Dieu, vas-tu te séparer ? Non, vas-tu me quitter ? Non. Que je n'en sois jamais séparé, ça vient aussi deux fois. Voilà, c'est une expérience extraordinaire, peut-être une consolation sans cause, dirait Saint Ignace. Hein. En tout cas, voilà, c'est quelque chose qui l'a complètement marqué à partir de 1654 jusqu'à la fin de sa vie. Il lui reste 8 ans à vivre, il n'en sait rien évidemment. Mais après ça, il y aura les provinciales qui sont une régression par rapport à ceci, disent Guardani et Chevalier. Hein. Et puis il y aura l'idée d'écrire ses pensées. Livre inachevé et qui aurait été, voilà, hein, selon lui, un gros, grosse apologétique, non systématique mais éloquente, hein, de la religion du Dieu caché, de la religion du cœur. Voilà, la prochaine fois donc, je vous parlerai de Baruch Spinoza. Merci beaucoup.